Il s'assit sur son îlot flottant, pensant qu'il allait se mettre à pleurer, mais aucune larme ne vint. Cela ne le troubla pas. À quoi bon pleurnicher? On s'était joué de lui, un point c'est tout. Il se promit d'être plus malin la prochaine fois, s'il y en avait une. Assis tout seul dans la pénombre, éclairé par la lueur cendrée de la lune invisible qui se déversait sur les buissons, il se dit que son sort était scellé. Les créatures que le dragon avait effarouchées convergeaient à nouveau sur lui. Si elle prenait soin d'éviter sa masse immergée, elle n'en avait pas moins accès au précaire refuge de Tim, et il ne faisait nul doute que celui-ci était la cible qu'elle visait. Seul espoir à ses yeux, qu'il s'agisse de poissons incapables de sortir de l'eau sans suffoquer. Mais il savait que des créatures aussi volumineuses que le semblait celle-ci, et nageant dans des hauts fonds qui plus est, était sûrement capable d'évoluer à l'air libre. Il les regarda décrire des cercles autour de lui et se dit « Elles rassemblent leur courage avant de m'attaquer. » La mort était proche, et il le savait. Mais il n'avait que 11 ans et il était affamé. Il attrapa sa miche de pain, vit qu'elle n'était pas totalement mouillée et en mangea quelques bouchées. Puis il la posa de côté pour examiner le pistolet à 4 canons, dans la mesure où le lui permettait le faible éclat de la lune et son reflet sur l'eau. Apparemment, son arme était sèche. Ainsi d'ailleurs que ses munitions, et il eut une idée pour les protéger de l'humidité. Il ouvrit un trou dans la miche de pain et y glissa ses balles de rechange, puis le reboucha et posa la miche près du sac. Il espérait que celui-ci sécherait, mais rien n'était moins sûr. L'air était fort humide et voilà que 2 des créatures fonçaient droit sur son îlot. Tim se leva d'un bond et hurla la première chose qui lui passa par la tête.
« Vous n'avez pas intérêt! Vous n'avez pas intérêt, goujat! Il y a un pistolero ici, un authentique fils de Gilead et de l'Elde, alors vous n'avez pas intérêt !»
Ces bestioles, dont la cervelle devait être aussi grosse qu'un petit pois, ne comprenaient sûrement pas ce qu'il disait, et s'en fichaient dans le cas contraire. Mais le simple son de sa voix les effraya, et elles s'égayèrent.
« Ne réveille pas le dragon qui dort, se dit-il, il pourrait te rôtir pour avoir un peu de calme. »
Mais avait-il vraiment le choix? Lorsque les créatures firent une nouvelle tentative, le petit garçon ajouta à ses cris des claquements de mains. S'il y avait eu un arbre creux à proximité, il aurait tapé dessus de toutes ses forces et que Nahar emporte le dragon. Dans le pire des cas, il préférait périr brûlé par son souffle que broyé par les mâchoires de ces horreurs aquatiques. Ça irait plus vite. Il se demanda si le collecteur se trouvait dans les parages pour assister au spectacle. « Pas tout à fait, » décida-t-il. Certes, il ne devait pas en perdre une miette, mais jamais il n'aurait crotté ses bottes dans ce marécage puant. Sans doute était-il installé bien au sec, les yeux rivés à sa bassine d'argent, Armanetta tournant autour de sa tête. Voir assise sur son épaule, son petit menton posé dans sa jolie menotte. Lorsqu'une aube grisâtre commença à poindre au-dessus des arbres, des monstruosités aux branches noueuses et festonnées de mousse comme Tim n'en avait jamais vu, son îlot était cerné par 2 douzaines de formes immergées. La plus petite mesurait 10 pieds de long et nombre d'entre elles étaient bien plus grandes. Il avait beau taper des mains, ça ne servait plus à rien, elle ne tarderait pas à attaquer. Par-dessus le marché, la lumière du jour, si faible soit-elle, lui permettait de voir que sa mort et sa dévoration se feraient en public. Il ne parvenait pas encore à distinguer les visages des spectateurs, ce dont il se félicitait. Leur silhouette contrefaite était déjà assez horrible. Ils avaient pris place sur l'îlot le plus proche, à quelques 70 yards de là. Il en comptait 12, mais ils devaient être plus nombreux. C'était difficile à dire dans la pénombre. Ils avaient les épaules voûtées, la tête tendue vers lui. Les guenilles, vêtant leur corps indistinct, pouvaient tout aussi bien être des paquets de mousse comme ceux qui ornaient les arbres alentour. On aurait dit des hommes debout surgis de la glèbe du marais pour assister à sa mise à mort.
Quelle importance! Qu'ils me regardent ou non, je suis perdu de toute façon!
L'une des créatures qui tournait autour de l'îlot fonça soudain vers celui-ci, propulsée par sa queue puissante, et sa tête de monstre préhistorique émergea des eaux, fendue par une gueule carnassière qui semblait ne vouloir faire de lui qu'une bouchée. L'îlot frémit sous le choc lorsqu'elle frappa sa berge. Quelques-uns des hommes debout poussèrent des petits cris. Tim pensa aux villageois réunis un sixième jour pour assister à une partie de poing. Cette idée le mit tellement en rage que toute terreur le quitta. Il était plus habité que par une fureur glacée. Ces monstres allaient-ils le dévorer? Rien ne lui semblait plus certain. Mais si la pétoire que lui avait donnée la veuve n'était pas trop mouillée, il allait veiller à ce que le premier d'entre eux paie chèrement son petit déjeuner.
« Et si elle refuse de tirer, je m'en servirai comme d'un gourdin pour taper sur cette saleté jusqu'à ce qu'elle m'arrache le bras. »
La chose sortait de l'eau en rampant, et les griffes de ses pattes antérieures courtaudes déchiraient les herbes comme les roseaux, laissant dans leur sillage des entailles noires qui se remplissaient d'eau. Sa queue, d'un vert tirant sur le noir, mais aussi blanche qu'un cadavre en dessous, battait furieusement les eaux, projetant des gerbes de boue dans toutes les directions. Son groin était surmonté d'une grappe d'yeux globuleux et palpitants. Ils étaient tous fixés sur Tim. Ses puissantes mâchoires claquèrent, ses crocs firent un bruit évoquant une meule de pierre. Sur l'îlot le plus proche, à 70 yards ou à 1000 roues de là, peu importe, les hommes debout semblaient encourager la bête. Tim ouvrit son sac. Ses mains ne tremblaient pas, ses doigts étaient souples et précis. Et pourtant, le monstre achevait de monter sur l'îlot et 3 pieds à peine séparait ses mâchoires cliquetantes des bottes trempées du petit garçon. Il releva l'un des percuteurs, comme la veuve le lui avait montré. Posa son index sur la détente et mit un genou à terre. À présent, il se trouvait au même niveau que la créature qui approchait. Il sentit son haleine au relent de charogne, entrevit les profondeurs roses de son gosier palpitant. Mais il souriait. Il sentit ses lèvres s'étirer et en fut ravi. C'était une bonne chose que de sourire à la fin de sa vie, ça oui. Si seulement il avait eu le collecteur en face de lui, avec sa traîtresse de fée verte sur l'épaule.
« Voyons ce que tu vas dire de ça, Goujat !»
murmura Tim, et il pressa la détente. Il y eut un bruit si fort qu'il crut que le pistolet lui avait explosé entre les mains. Mais ce n'était pas lui. C'était la hideuse grappe d'yeux du monstre qui s'était désintégrée. Il en jaillit un ichor rouge et noir. Poussant un rugissement de douleur, la créature tomba en arrière sur sa queue. Ses petites pattes antérieures battirent l'air. Elle plongea, se convulsa, puis se retrouva flottant sur le dos, exhibant son ventre blanc. Un nuage rouge colora les flots autour de son crâne en partie immergé. Son sourire carnassier avait viré au rictus cadavérique. Sur les branches, les oiseaux réveillés par le coup de feu se mirent à piailler. Toujours enveloppé de froideur, et toujours souriant bien qu'il n'en ait pas conscience, Tim ouvrit le canon de son arme et en ôta la douille qu'il venait de tirer. Elle était chaude et encore fumante. Puis il s'empara du pain, mordit dedans et glissa une nouvelle balle dans la chambre vide. Il referma le canon et cracha sa bouchée de pain qui avait un goût un rien huileux.
« Venez-y »
hurla-t-il aux autres reptiles qui s'agitaient dans tous les sens. Il remarqua au passage que le dragon avait disparu.
« Venez prendre votre ration !»
Il ne parlait pas ainsi par bravade. Il voulait que les créatures remontent à l'assaut. Nul objet, pas même la hache de son père, toujours passée à sa ceinture, ne lui avait jamais semblé plus divinement juste que le pistolet qu'il tenait dans sa main gauche. Lui parvint alors un bruit qu'il ne put tout d'abord identifier, non pas du fait de son étrangeté, mais plutôt de sa totale incongruité. Les hommes debout l'applaudissaient. Lorsqu'il se tourna pour leur faire face, brandissant toujours son arme fumante, ils tombèrent à genoux, portèrent le poing à leur front et éructèrent le seul mot qu'ils paraissaient capables de prononcer. Ce mot n'était autre que « Heil », l'un des rares à avoir le même sens dans le haut-parler et le bas-langage. Ce mot que les Mani appelaient « le Fingan », c'est-à-dire le premier mot. Celui-là même qui avait fait tourner le monde.
« Est-il possible ?»
Tim Ross, fils de Jack, cessa de fixer les hommes debout agenouillés sur la berge pour considérer l'arme antique, mais redoutable, qu'il tenait à la main.
« Est-il possible qu'il me prenne ?»
C'était fort possible, en effet. C'était même probable. Les habitants du Fagonard le prenaient pour un pistolero. L'espace de quelques instants, il resta paralysé d'étonnement. Il regarda les hommes debout depuis l'îlot où il avait défendu sa vie et risquait toujours de la perdre. Ils étaient à genoux sur le sol boueux, à 70 yards de là, le poing sur le front et les yeux braqués sur lui. Puis, revenant à un semblant de raison, Tim comprit qu'il devait profiter de leur vénération pendant qu'il en était encore temps. Il fouilla sa mémoire en quête des histoires que lui racontaient jadis sa mama et son pa, et de celles que la veuve Smack lisait dans ses chers livres pour le bonheur de ses élèves. Aucune d'elles ne semblait correspondre à sa situation présente. Mais il finit par se rappeler un conte qu'il tenait de Harry Léchard, un vieux bonhomme qui travaillait à la scierie à temps partiel. C'était un type à moitié idiot qui pointait parfois son index sur vous et faisait semblant de tirer, et se lançait alors dans des discours en haut-parler. Du moins le prétendait-il. Il n'aimait rien tant que d'évoquer les hommes de Gilead qui partaient en quête armée de leurs revolvers.
« Oh, Harry, j'espère que c'est le cas qui a voulu que je sois là le jour où tu nous as raconté cette histoire pendant la pause. »«
Heil, Serf !»
cria-t-il aux hommes debout.
« Je vous vois très bien. Levez-vous pour aimer et servir. »
Durant un long moment, il ne se passa rien. Puis ils se levèrent et le fixèrent de leurs yeux enfoncés dans leurs orbites, où se lisait une profonde fatigue. Leurs bouches béantes traduisaient l'émerveillement qui s'était emparé d'eux. Tim vit que certains étaient armés d'un arc grossier. D'autres avaient un gourdin passé à une liane faisant office de ceinture.
Qu'est-ce que je leur dis maintenant ?
Parfois, il convenait de s'en tenir à la vérité toute nue.
« Faites-moi sortir de ce putain d'îlot »
hurla-t-il. Les hommes debout le regardèrent un moment sans comprendre. Puis ils se regroupèrent pour se lancer dans une palabre à base de grognements, de cliquetis et de grondements inquiétants. Alors que Tim commençait à craindre que cette conférence n'en finisse jamais, plusieurs d'entre eux partirent à toutes jambes. Le plus grand se tourna vers lui et lui présenta ses deux mains. C'étaient bien des mains, même si elles comptaient un peu trop de doigts et que leurs paumes étaient recouvertes d'une mousse verte. La signification de ce geste était évidente. Patience. Tim opina du chef, s'assit sur son îlot, comme Lady Muffin sur son gâteau, songea-t-il, et décida de finir sa miche de pain. Il guettait le retour des créatures nageant dans les flots et ne lâchait pas sa pétoire. Mouches et autres insectes l'avaient repéré et ne cessaient de se poser sur sa peau pour en savourer la sueur. Si ça continuait comme ça, il serait obligé de piquer une tête dans l'eau afin d'échapper à ces pestes trop rapides pour qu'il arrive à les écraser. Mais qui aurait su dire ce qui rôdait dans cette bouillasse et rampait sur son fond vaseux? Comme il avalait sa dernière bouchée de pain, un battement sourd résonna dans le marécage envahi par la brume matinale, semant la panique parmi les oiseaux. Certains de ceux qui prenaient leur envol alentour étaient d'une belle taille, pourvus d'un plumage rose vif et de longues pattes grêles sur lesquelles ils couraient pour prendre leur élan. Leurs ululements suraigus évoquaient des rires d'enfants frappés de démence.
« Quelqu'un tape sur un tronc d'arbre creux, comme je voulais le faire il y a peu. »
Cette idée le fit sourire. Le bruit se prolongea pendant 5 minutes, puis cessa abruptement. Les goujats sur leur île se tournèrent dans la direction dont Tim était venu. Un Tim bien plus jeune, un Tim rieur qui suivait sans souci une méchante fée du nom d'Armanetta. Les hommes debout se mirent une main en visière pour se protéger du soleil qui montait au-dessus des frondaisons et dissipait la brume à toute vitesse. La journée s'annonçait anormalement chaude. Tim entendit un clapotis et peu après vit un étrange bateau mal fichu émerger d'un banc de brume. Fait de briques et de brocs à partir de bois flotté, il avait un faible tirant d'eau et traînait derrière lui des paquets d'algues et de mousse. Il possédait un mât, mais pas de voile. En son sommet, en guise de vigie, on trouvait une tête de sanglier entourée d'un halo de mouches bourdonnantes. 4 habitants du marais y maniaient des rames taillées dans du bois de couleur orange que Tim ne put identifier. 1/5 se tenait à la proue, coiffé d'un haut de forme en soie noire décoré d'un ruban rouge qui lui descendait sur l'épaule. Il scrutait les eaux devant lui, faisant signe de virer tantôt à gauche, tantôt à droite. Les rameurs suivaient ses indications avec une efficacité dénotant une longue habitude, faisant sinuer leur embarcation entre les îlots flottants qui avaient conduit Tim à sa présente situation. Lorsque le bateau approcha des eaux noires d'où avait émergé le dragon, le timonier se pencha pour ramasser, non sans effort, un objet assez lourd. Il s'agissait de la carcasse sanguinolente d'un sanglier, sans doute celui-là même dont la tête décorait à présent le mât. Sans prendre garde au sang qui lui maculait la peau et les vêtements, il la serra contre lui tout en scrutant l'eau alentour. Puis il poussa un petit cri aigu que suivit une série de clics. L'équipage leva les rames. Le bateau continuait de glisser vers l'îlot de Tim, mais le timonier n'y prenait garde. Il gardait les yeux rivés aux eaux noires. Dans un silence bien plus choquant qu'un bruit d'éclaboussure, une gigantesque serre sortit des eaux, ses griffes à demi refermées. Ça et timonier déposa la carcasse sanglante au creux de cette main tendue, aussi délicatement qu'une mère déposant son bébé endormi dans un berceau. Les griffes se refermèrent autour de la viande, la pressant pour en faire couler quelques gouttes de sang qui plurent sur l'eau. Puis, aussi silencieusement qu'elle était apparue, la serre disparut en emportant l'offrande.
« Maintenant, tu sais comment on apaise un dragon, » se dit Tim.
Il songea qu'il amassait une prodigieuse quantité de récits qui ne manquerait pas de fasciner non seulement Harry Léchard, mais aussi tout le village de l'arbre, à condition qu'il reste vivant pour les raconter. Le chaland mal fichu buta sur la berge. Les rameurs baissèrent la tête et portèrent le poing à leur front. Timonier les imita. Lorsqu'il fit signe à Tim de monter à bord, de longs filaments verts et bruns frémirent sur son bras grêle. D'autres étaient accrochés à ses joues et à son menton, jusqu'à ses narines qui semblaient encombrées de matière végétale, l'obligeant à respirer par la bouche.
« Ce ne sont pas des hommes debout, »
se dit Tim en gagnant l'embarcation.
« Ce sont des hommes plantes, des mutés qui feront un jour partie du marécage où ils demeurent. » « Je vous dis grand merci, »
déclara Tim à Timonier, et il porta à son tour le poing à son front. « Aïl !» répondit Timonier. Il lui adressa un large sourire. Les quelques dents qu'il possédait étaient vertes, mais son sourire n'en était pas moins charmant.
« Heureuse rencontre que la nôtre !» reprit Tim.
« Heil !» répéta Timonier, et tous reprirent ce salut, le faisant résonner dans le marais. « Heil ! Heil ! Heil !» Sur le rivage, si l'on pouvait ainsi qualifier un sol mouvant d'où l'eau suintait à chaque pas, la tribu se rassembla autour de Tim. Il en émanait une forte odeur de glèbe. Tim garda son pistolet à la main, non pour leur tirer dessus ou seulement les menacer, mais parce qu'ils étaient avides de le voir. Si l'un d'eux avait osé le toucher, il se serait empressé de le ranger dans le sac, mais aucun ne le fit. Il ne cessait de gesticuler, de grogner et de piailler, mais il semblait incapable de prononcer la moindre parole, à l'exception du mot « heil ». Cependant, lorsque Tim s'adressait à eux, il avait l'impression d'être compris. Il en compta au moins 16, rien que des hommes et rien que des mutés. Outre les végétaux, certains hébergeaient des fungus qui ressemblaient aux champignons de souche que Tim avait parfois remarqués sur le bois de Florus à la Syrie. Il vit aussi quantité de cloques et de furoncles suppurants. Une quasi-certitude l'envahit. Peut-être y avait-il aussi des femmes dans le marais, mais jamais elles n'auraient d'enfants. Cette tribu se mourait. Bientôt, le fagonard l'engloutirait comme le dragon femelle avait digéré son offrande. Mais en attendant, ces hommes le regardaient d'une façon qui lui rappela ses journées à la Syrie. C'était ainsi que les ouvriers débutants regardaient le contremaître lorsqu'ils avaient achevé leur tâche et attendaient qu'il leur en assigne une autre. Les membres de la tribu le prenaient pour un pistolero, ce qui, étant donné son âge, était franchement ridicule, et ils étaient à ses ordres, du moins pour le moment. Sauf que Tim n'avait jamais été un chef et ne s'était jamais imaginé dans ce rôle. Que désirait-il au juste? S'il leur demandait de le conduire à la lisière sud du marécage, il le ferait, aucun doute là-dessus. De là, il pensait pouvoir retrouver son chemin et regagner la piste du bois de fer et après le village de l'arbre. Chez lui. C'était la solution la plus raisonnable et il le savait. Mais quand il serait rentré à la maison, sa mère serait toujours aveugle. Même si on capturait le grand Kels, cela n'y changerait rien. Il aurait couru tous ses risques en vain. Pis encore, le collecteur le regarderait rentrer la queue basse dans sa bassine magique, comme il se moquerait de lui. Et cette punaise de fée perchée sur son épaule rirait elle aussi à gorge déployée. Pendant qu'il réfléchissait ainsi, il se rappela ce que disait la veuve Smack en des temps plus cléments, lorsqu'il n'était qu'un jeune écolier soucieux de faire ses devoirs avant que son pas ne soit rentré des bois. Ma seule question stupide, mes goujats, c'est celle que vous ne posez pas. S'exprimant lentement et sans trop d'espoir, il dit «
Je suis en quête de Merlin, un puissant magicien. On m'a dit qu'il avait une maison dans la forêt sans fin. Mais celui qui m'a dit cela était un salopard, un menteur, un cruel félon qui se divertit en bernant les enfants. Indigne de confiance. Homme du fagonard, avez-vous ouï dire de ce Merlin ? Peut-être porte-t-il un grand chapeau de la couleur du soleil. »
Il s'attendait à les voir secouer la tête en signe d'incompréhension. Mais ils s'éloignèrent de lui pour former le cercle et palabrer entre eux. Cela dura une dizaine de minutes, au cours desquelles les esprits s'échauffèrent parfois. Puis ils revinrent auprès de Tim. Le timonier s'avança vers lui, poussé par des mains difformes aux doigts couverts de plaies. C'était un homme plutôt costaud et large d'épaules. S'il n'avait pas grandi au sein des miasmes et de l'humidité du fagonard, peut-être aurait-il été beau gars. Ses yeux luisaient d'intelligence. Sur son torse, au-dessus du sein droit, une énorme pustule infectée frémissait et palpitait comme si elle abritait un dangereux parasite. Il leva un doigt et Tim reconnut aussitôt ce geste. C'était ainsi que la veuve Smack ordonnait « Fais bien attention ». Il acquiesça et pointa sur ses yeux l'index et le majeur de sa main droite, celle qui ne tenait pas l'arme, ainsi que la veuve le leur avait appris. Timonier. Ce devait être le meilleur mime de la tribu, supposa Tim. Hocha la tête à son tour, puis agita la main sous son menton que se disputaient des poils crasseux et des herbes folles. Tim sentit son cœur battre plus fort. Une barbe? Oui, il a une barbe. Puis Timonier leva la main au-dessus de sa tête, serrant peu à peu le poing pour suggérer un chapeau pointu.
« Oui, c'est bien lui !»
dit Tim en éclatant de rire. Timonier sourit, mais son sourire était un peu forcé. Les autres membres de la tribu se mirent à pépier et à caqueter. Timonier leur intima de se taire, puis se retourna vers Tim. Avant qu'il ait pu reprendre sa pantomime, la pustule sur son torse éclata dans un jaillissement de pus et de sang. Il en sortit une araignée grosse comme un œuf de rouge-gorge. Timonier l'attrapa, l'écrasa et la jeta. Puis, sous les yeux fascinés et horrifiés de Tim, il écarta d'une main les lèvres de la plaie. Lorsqu'il l'eut bien ouverte, il en extirpa une masse visqueuse d'œufs animés d'une douce palpitation. Il jeta ceci d'un geste machinal, s'en débarrassant comme on se débarrasse d'un peu de morve quand on vient d'éternuer par un matin frisquet. Aucun de ses congénères ne prêta à ses actes une attention particulière. Ils attendaient que le spectacle reprenne. Une fois le problème réglé, Timonier se laissa choir à quatre pattes et fit une série de bonds de prédateur tout en grondant de tout son cœur. Il s'interrompit pour se tourner vers Tim, qui secoua la tête. Son ventre le tourmentait et il fit de son mieux pour le dompter. Ses gens venaient de lui sauver la vie et il serait impoli de vomir devant eux.
« Je ne comprends pas, Sai. Je suis désolé. »
Timonier se releva en haussant les épaules. Les herbes fixées à son torse étaient maintenant perlées de sang. Il recommença sa pantomime. Une barbe, un chapeau pointu. Puis il se remit à quatre pattes et refit des petits bonds. Cette fois-ci, tous ses congénères l'imitèrent. Durant un moment, la tribu devint une meute de fauves dangereux, même si les rires et la bonne humeur gâchaient quelque peu l'illusion. Tim secoua la tête une nouvelle fois, se sentant un peu bête. Timonier semblait soucieux plutôt que guilleré. Il resta quelques instants immobile, les poings sur les hanches, le front rembruni, puis il fit signe à un de ses congénères de s'avancer. Ce dernier était un grand échalas chauve et édenté. Tous deux palabrèrent longuement. Puis le grand échalas partit en courant, tanguant comme une chaloupe par gros temps tellement ses jambes étaient cagneuses. Timonier appela ensuite deux autres membres de la tribu. Après qu'il leur eut parlé, eux aussi s'en furent. Puis Timonier recommença une troisième fois son imitation d'animal féroce. Lorsqu'il l'eut achevé, le regard qu'il adressa à Tim était quasiment suppliant.
« Un chien ?»
hasarda Tim. Les hommes plantes rirent aux éclats. Timonier se releva et tapota l'épaule de Tim de sa main à six doigts, comme pour lui conseiller de ne pas s'en faire.
« Dites-moi une chose, »
demanda le petit garçon.
« Merlin, Sai, il est bien réel ?»
Timonier rumina cette question, puis leva les bras au ciel d'un geste de là exagéré. N'importe quel habitant de l'arbre aurait pu l'interpréter. Qui sait ?